il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait mes études au lycée professionnel à Armentières, mais c'était malheureusement il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, je suis ingénieur chez Air France. Ce que je voudrais vous faire part, c'est vous faire part de tout l'enthousiasme d'un métier d'ingénieur et d'un métier d'ingénieur qui a beaucoup de facettes. Alors, la présentation, elle n'est absolument pas structurée. Donc, je vous l'ai présentée, j'ai des idées, je sais ce que je veux vous raconter. Il y aura un petit bout de film qui, si tout à l'heure on a testé, devrait fonctionner. Si vous faites part qu'ingénieur, vous êtes ici dans les lycées techniques, si j'ai bien compris, avec sciences des techniques de l'ingénieur, j'ai entendu des terminales C, des secondes 4, et quelque part, peut-être, des interrogations chez vous. Qu'est-ce qu'être ingénieur? Un ingénieur, je vais vous présenter, donc je suis de formation ingénieur, et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ingénieur. Et ingénieur, ça a beaucoup, beaucoup de facettes. Alors, d'abord, Franck Dubouc. J'ai marqué ingénieur École centrale de Lyon. Parce qu'en France, il y a un système d'école d'ingénieurs. Il y a plus de 220 écoles d'ingénieurs. 220 écoles d'ingénieurs. Il y a des universités qui forment quasiment toutes aujourd'hui des ingénieurs. Et il y a plusieurs milliers d'ingénieurs qui sortent tous les ans. Si je vous posais la question à brûle pourpoint, c'est quoi un ingénieur? Qui pourrait me répondre, c'est quoi le métier d'un ingénieur? Vous serez très difficile à répondre, parce qu'il y a beaucoup de réponses. Beaucoup, beaucoup de réponses. Ingénieur peut prendre beaucoup, beaucoup de facettes, et c'est ce parcours que je voudrais partager avec vous et vous montrer un petit peu les différentes phases professionnelles sur lesquelles j'ai été appelé à travailler. D'abord, c'est un métier qui est passionnant. Alors, moi, je suis sorti en 78. En 78, c'est-à-dire que je suis né, moi, en 1955, ça fait déjà quelques années. Et je suis sorti, j'ai eu mon baccalauréat, à l'époque, ça s'appelait scientifique, en 73. Et je suis devenu ingénieur en 78, c'est-à-dire 5 ans plus tard, avec 2 années d'école préparatoire, on va voir ça, et 3 années d'école d'ingénieur. Alors, d'abord, le bonjour. Je vais vous donner quelques secrets aujourd'hui. D'accord? Il y a un secret qui est important, c'est le bonjour. Je vais vous chahuter 2 secondes. On a beau être ingénieur si on veut, la chose la plus importante que vous allez faire demain, quel que soit votre métier, ingénieur ou pas ingénieur, et je vous demande de bien vous en souvenir, allez dire bonjour avec les gens avec lesquels vous travaillez. Ce n'est pas compliqué à faire et ça changera tout. Ça changera tout avec vos équipes et je peux vous prédire que le bonjour, l'entrée en relation, parce que demain, vous ne travaillerez pas tout seul. Aucun d'entre vous ici ne travaillera tout seul. Vous allez devoir travailler avec des autres, travailler avec des femmes et des hommes qui sont complètement des formations différentes et il va falloir travailler ensemble. Donc, première chose, c'est le bonjour. Et le bonjour, ce n'est pas compliqué. Et je peux vous prévoir que dans de nombreuses entreprises, il y a certains, entre guillemets, acteurs qui ne disent pas bonjour. D'accord? Et ça, c'est déjà la difficulté numéro un. Si vous dites bonjour, 80% du chemin va être fait. Deuxième chose, ma présentation. Quand on a dit bonjour, qui je suis? 1,92 m. C'est pas mal, hein? Il y a plus grand, hein? Il y a plus petit aussi. Donc, 1,92 m. J'ai fait un bac scientifique. Et pourquoi j'ai fait un bac scientifique? Parce que j'en savais rien. Et ça, c'est aussi intéressant. Je ne savais pas du tout, quand j'avais votre âge, ce que j'allais faire plus tard. Donc déjà, un premier message, ne soyez pas inquiet si aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez faire demain. C'est absolument normal. D'accord? J'aimerais bien que tous les vos professeurs aimeraient bien savoir ce que vous allez faire demain. On aimerait tous, c'est plus facile pour travailler. Mais vous pouvez aussi ne pas savoir. À un moment donné, il faudra savoir. D'accord? Mais vous avez encore le temps de savoir. Donc, j'ai fait Mathsup, j'ai fait d'abord un bac C, bac scientifique. Pourquoi un bac scientifique? Parce que c'est quelque part un bac de fainéant. On est bon en maths et en physique parce qu'on aime un peu les jeux. Et on a un bac scientifique sans grande difficulté. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'économie, de l'histoire, de la géographie, de faire des sciences humaines, de faire de la philosophie et du français. Donc, la solution du scientifique, quelque part au débat, aujourd'hui, je fais des cours de philo. D'accord? Mais c'est intéressant, c'est que le côté scientifique, c'est quelque chose de relativement facile à faire, sous réserve qu'on aime le jeu. Deuxième chose, j'ai fait une prépa. On reviendra sur la prépa. J'ai fait une prépa au lycée de Douai, dans le Nord. Je sais pas, il n'y a pas grand chose, pas grand monde ici qui doit connaître Douai. Qui connaît Douai? Il y a une personne qui connaît Douai. Donc, j'ai fait une classe préparatoire et j'ai fait P'. À l'époque, je crois que ça n'existe plus. P', c'était plutôt orienté physique. J'ai intégré l'École centrale de Lyon en 75 et j'y ai passé 3 années extraordinaires. Ça, c'est aussi un message intéressant. J'ai passé 5 années intéressantes. On reviendra sur la classe préparatoire. La classe préparatoire est une classe passionnante. On apprend beaucoup. D'accord? Et les classes d'ingénieurs, c'est des moments où on va se réaliser beaucoup. On va rencontrer énormément de gens, énormément de copains, et on se fera des copains qu'on gardera toute sa vie. Hein, les copains que vous faites au moment de vos études supérieures, vous les gardez quelles que soient les études. Hein. Ce que je veux dire ce soir, oui, cet après-midi, ne soyez pas inquiets si vous ne faites pas ingénieur demain. Hein. Je vais vous parler du métier d'ingénieur aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Mais on peut faire plein d'autres choses sans être ingénieur. Hein, ingénieur, ce n'est pas forcément la panacée. Hein, on peut faire cinéaste, on peut faire philosophe, on peut faire médecin, on peut faire plein d'autres métiers qu'ingénieur. Je vais vous parler que du métier d'ingénieur et je vais vous faire part de mon enthousiasme de mon métier d'ingénieur. Mais vous pouvez demain choisir une autre voie. Quelle que soit votre voie, pour être technicien, agent de production, quel que soit votre métier, vous pourrez vous réaliser et on va le revoir à travers mes propos. Ensuite, j'ai fait d'autres études. Ça, c'est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait des études, on pense à refinir ses études. Deuxième message important, vous n'aurez jamais fini vos études. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle d'être venu cet après-midi. On aimerait bien arriver à la fin des études. Vous apprendrez toute votre vie. Et ça, c'est aussi un message intéressant. Les études, aujourd'hui, on vous encadre, vous avez des professeurs. Demain, vous serez vous-même vos propres proviseurs. C'est vous qui déciderez ce que vous souhaiterez apprendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre tout le temps. Et il y a une grande certitude, c'est que vous n'aurez jamais le temps de tout apprendre. On est tous sur Terre ignorants d'un paquet de choses. D'accord ? Par contre, vous pourrez toujours continuer à apprendre et à découvrir des choses absolument passionnantes. Et je vous recommande donc mes études derrière. J'ai fait un DEA de méthodologie et modèle du management scientifique. C'est des choses un petit peu sophistiquées. J'ai fait mon pilote de ligne. Je suis pilote de ligne. Ça a surpris. Hein, mais quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas pilote de ligne ? Donc, j'ai appris à piloter. Je suis pilote privé, puis pilote de ligne. Et aujourd'hui, je suis ingénieur pilote de ligne. C'est intéressant. On peut faire chose. Une fois que j'ai fait pilote de ligne, j'ai souhaité poursuivre. J'ai fait le centre de perfectionnement aux affaires. Je m'intéresse au business. Donc, on change d'orientation. Et on peut le faire en cours de parcours. Troisième chose, je vais suivre actuellement l'Institut des hautes études de la Défense nationale. La géostratégie, c'est complètement différent. Vos études, vous les continuerez donc tout du long de votre vie avec ou des formules, comme je viens de mettre, un peu structurées et peut-être des formules non structurées. Je suis parisien, je n'étais pas parisien. Il y a un grand nombre d'entre vous qui a des chances qu'ils vont devoir rejoindre la capitale. Hein, je vous chahute deux minutes, ça ne vous fait peut-être pas plaisir. Malheureusement, la zone de Paris attire beaucoup d'emplois. Je suis convaincu que parmi vous, certains demain devront rejoindre la capitale. D'autres reviendront à Bordeaux. Hein, donc je vous rassure, les Bordelais resteront à Bordeaux. Et je suis aujourd'hui secrétaire général, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est surtout le mot général, hein, d'Air France Consulting. Hein, c'est-à-dire que je vous expliquerai un petit peu ce que je fais dans le cadre de mon métier. Alors, ensuite, quand on s'est présenté, on a dit bonjour, on se présente et on remercie. Et je voudrais remercier plusieurs choses. D'abord, l'Université de tous les savoirs. Donc Catherine a bien expliqué. Très compliqué, 366 conférences. Imaginez la soif de savoir qu'il y a en France, puisque ces conférences ont lieu tous les jours, 1er janvier, 1er mai, samedi et dimanche, tous les jours du mois d'août. Plus de 1000 personnes à chaque conférence. Donc le besoin de savoir et de comprendre est quelque chose d'absolument étonnant et qui est partagé, et c'était un message intéressant à savoir. Merci à vos professeurs et votre directeur. Ils nous ont invités à venir chez vous. Je ne suis pas fier d'être aujourd'hui ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous transmettre ? Je ne connais pas vos aspirations, je ne vous connais pas, je n'ai pas vu jouer, je n'ai pas vu la voiture AK, hein, je n'ai pas vu tous vos projets. Et ces projets, vous en avez sûrement partout. Je ne connais pas vos professeurs, les surnoms que vous donnez aux professeurs. Je ne connais pas. Hein, j'imagine que vous devez avoir toute une vie intérieure extrêmement riche. Alors, il y a une autre chose qui me surprend, pas beaucoup de filles. Alors, prenez-en soin. Et merci aussi d'être là cet après-midi, un vendredi après-midi. Chut, on va faire un silence deux minutes. D'être un vendredi après-midi pour vous poser quelques questions pour le futur. C'est un petit peu mon message cet après-midi. J'aimerais bien qu'en partant ce soir, il reste un tout petit peu quelque chose. Il ne va peut-être pas rester grand-chose, mais j'espère que vous vous souviendrez d'avoir vu quelqu'un qui vous a donné l'envie de réaliser vos rêves. Et c'est ce que je vais essayer de partager tout de suite. Je vais vous faire partager mon métier d'ingénieur, multifacette, de mon enthousiasme. Je suis toujours enthousiaste de ce que je fais. Hein, on peut se passionner pour beaucoup de choses. On ne peut pas se passionner pour tout. Je vous rassure aussi, on peut se passionner pour certains domaines qui ne vont pas vous plaire et c'est normal. Et je suis convaincu que si vous avez des rêves, vous pouvez les réaliser. Je vais vous raconter une toute petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3 semaines. Je travaille dans un hôpital pour enfants malades. Un petit garçon, 5 ans. Quand je lui pose la question, je lui dis « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il me répond « moi, je voudrais être astronaute ». Donc, magnifique, la petite copine dans sa chambre lui casse sa baraque. Lui dit « écoute, tu ne peux pas être astronaute, tu as des lunettes ». À 5 ans, petit garçon tout triste, il se retourne vers moi, il me dit « alors, je vais faire coiffeur ». Attendez, je n'ai pas fini l'histoire. Intéressant. Pourquoi tu veux faire coiffeur ? Il veut faire coiffeur parce que le papa de son copain veut faire coiffeur. On a travaillé, je quitte sa chambre, il m'a rejoint dans le couloir. Il m'a dit « Monsieur, est-ce que sur Mars, il y a des coiffeurs ?» C'est-à-dire que le rêve continue. Peut-être je ne vais pas conduire la fusée, mais je peux peut-être aller sur Mars faire coiffeur. Et à ce moment-là, je vais réaliser mon rêve. Et ça, c'est aussi un message important. Votre rêve, il y a plein de moyens d'y arriver. Si vous avez un rêve, quelque chose que vous voulez faire, le rêve est à votre portée, et ça, j'en suis vraiment convaincu. Alors, demain, il va falloir choisir. Je ne sais pas, les terminales S ont peut-être déjà choisi ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Les secondes 4, peut-être pas encore. Ils ont encore quelques mois, quelques semaines. Il y a d'autres secondes 4, j'imagine, dans la salle. Il va falloir, à un moment donné, se positionner, et vous pouvez vous positionner. Alors, je vais raconter un petit peu ma passion. Quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, je n'avais pas de vraie passion non plus. Non seulement je n'avais pas de passion à la sortie de l'école, enfin à la sortie de la terminale, mais je n'avais pas de passion non plus en sortie d'école d'ingénieur. Et aujourd'hui, je suis vraiment passionné par l'aviation. Et l'aviation, c'est un monde incroyable. 1903, c'est hier. Vos grands-parents ont connu 1903, vos arrière-grands-parents peut-être. Mais ce n'est pas si loin que ça. En 1903... L'histoire de l'aviation, c'est le premier bond des frères Wright. Vous avez tous connu Saint-Exupéry. J'ai rencontré en l'an 2000 l'ancienne petite amie de Saint-Exupéry. Donc l'histoire de l'aviation est encore à votre portée. D'accord ? 1903, c'est les premiers bonds des frères Wright. On va passer le mur du son en 1947. Et ça, c'est toute une période d'ingénieurs. Et ensuite, il y aura le développement de l'aviation que vous connaissez aujourd'hui. Où on transporte plus de 2 milliards de passagers par an dans le monde. 2 milliards de passagers vont prendre l'avion cette année. Donc, c'est le chiffre absolument étonnant du résultat du transport aérien à partir du premier bond des frères Wright. Il y a un nouveau siècle extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est passé des choses. Et vous allez vivre des choses aussi extraordinaires que ce siècle de l'aviation. Alors, ce matin, dans le TGV, 300 km/h, je faisais ma présentation, mais en fin de compte, est-ce que moi, j'ai vécu des changements ? Et je suis surpris, je vais vous montrer un tout petit peu, j'ai repris que des choses d'ingénieur. Ce que j'ai vu apparaître à votre place, en 1960, j'avais que 5 ans, mais c'est l'arrivée de la télévision couleur. Avant, ça n'existait pas. Télévision noir et blanc, je ne suis pas sûr que dans la salle, il y ait beaucoup de gens qui connaissent la télévision noir et blanc. On a vu apparaître l'arrivée des toutes premières calculatrices. J'ai fait toutes mes études, il n'y avait pas de calculatrice. On faisait tous les calculs avec des règles à calcul. La calculatrice n'était pas inventée. Donc la calculatrice est inventée aujourd'hui. Je suis sûr que plus personne ici connaît la règle à calcul. Deuxième chose, le TGV. TGV, c'est 78. Une grande aventure d'ingénieur. Une très grande aventure d'ingénieur. Les balbutiements de l'informatique. J'ai démarré l'informatique avec des cartes perforées. Les cartes perforées n'existent plus. J'ai vu apparaître l'arrivée des micro-ordinateurs en 1980, quand j'étais à Abidjan. J'ai vu apparaître Internet dans 90. Aujourd'hui, vous n'imaginez même pas qu'Internet ne puisse pas exister. Donc Internet. J'ai vu apparaître les jeux vidéo. J'ai vu apparaître le téléphone portable dans les années 95, avec un changement de posture complètement différent. Avant, on appelait un lieu. Aujourd'hui, on appelle quelqu'un. Le « allô » a été transformé en « t'es où ? » Donc ça, c'est une grande transformation de l'ingénieur. Alors, mon parcours depuis 78, mon parcours d'ingénieur. Mon premier parcours, une fois qu'on a terminé, vous n'aurez malheureusement pas la chance de le faire, j'ai dû faire mon service national. Service national, et qu'est-ce que j'y ai fait ? 3 mois d'infanterie de marine, et ensuite j'ai rejoint un monde de la recherche. Le monde de la recherche, et j'ai travaillé dans les pompes. Alors, c'est très compliqué à vous expliquer, je vais vous le dire, attention, respirez un grand coup, dans les pompes primaires, dans les vibrations des pompes primaires des sous-marins nucléaires lance-engins, dans le réacteur nucléaire. Eh bien, j'ai acquis une certitude après ces 13 mois, c'est que je ne serai jamais chercheur. Je n'ai pas aimé du tout. D'accord ? Ça, c'est aussi intéressant. On peut aimer certaines choses, on ne peut pas aimer certaines choses. J'ai trouvé que les calculs, toute la journée, derrière un bureau, ce n'était pas mon truc. J'ai paniqué, c'est qu'on ne peut pas être chercheur. Attention. Il y a des métiers qu'on aime, des métiers qu'on n'aime pas. Moi, faire de la recherche fondamentale, derrière un bureau, j'étais très malheureux. D'autres, ils réussissent très bien. J'ai découvert ensuite, pendant mon service militaire, quelque chose d'intéressant, je suis parti au Mali. Et ça, c'était intéressant, la découverte de l'autre. La découverte du Mali, le Mali est un pays d'Afrique, un pays sahélien, un pays extraordinaire. Si vous voulez avoir l'accueil, le bonjour en Afrique, le bonjour au Mali, est partagé quasiment par toute la population. On ne peut pas parler à quelqu'un sans avoir dit bonjour. Donc, ça va être extraordinaire. Le Mali, je vais y revenir derrière, une étape importante de ma carrière. Et une certitude, je ne serai pas sérieux, pas chercheur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai découvert le Mali? Mon premier boulot, et c'est mon boulot d'ingénieur, j'ai rejoint une société, la Synorg, ça s'appelait Synorg, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, c'est un peu compliqué, et j'ai fait de l'informatique. J'ai fait de l'informatique, alors j'étais très surpris. Tout le monde voulait rejoindre l'EDF, et moi je voulais faire de l'informatique en Afrique. J'avais aucune expérience d'informatique, et j'étais convaincu qu'en Afrique, il n'y avait sûrement pas d'ordinateur. Et j'ai acheté le journal un samedi matin, où il n'y a pas d'annonce. Il y avait une seule annonce, c'était pour l'Afrique et faire de l'informatique, débutant accepté. Je dis, ben ça c'est moi, c'est magnifique. Et j'ai écrit, quand vous serez convaincu que c'est vous, ben, vous êtes forcément recruté. Je me suis dit, donc retrouvé en Afrique. Et là j'étais vendu, avant de partir, comme expert. Et comme expert, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous le dire, mais j'étais très gêné d'être expert. Vous savez, des sociétés de conseil. Et là, je me suis ému vis-à-vis de mon directeur, de mon futur directeur. Il m'a dit, attendez, monsieur, je ne suis pas expert, je n'ai jamais travaillé. Et monsieur Nebourg, il y a deux choses dans la vie. Quand on sait faire quelque chose, on le fait. Et quand on ne sait pas, on donne des conseils. Donc il m'a dit, vous êtes bon pour faire du conseil. Donc je suis parti en conseil. Et là, j'ai beaucoup bossé, contrairement à ce qu'on pense. L'informatisation, j'ai informatisé tout seul une banque de développement, tout seul. D'accord. Et à un moment donné, j'ai paniqué. J'ai vu arriver l'ordinateur. À l'époque, l'ordinateur, il fallait couper le balcon. L'ordinateur est monté avec une grue, on est rentré dans la pièce, un énorme machin. Ce truc-là, qui est tout petit sur la table, à l'époque, ça faisait quasiment deux bahuts de cuisine. L'ordinateur posé dans l'ordinateur. Maintenant, je vais reprogrammer. Vous êtes tout seul devant votre machine. Tout le monde vous regarde. Donc, on a un ingénieur. Il va se débrouiller avec la machine. Et là, vous êtes tout seul devant la machine. Mais comment je vais me débrouiller avec ce truc-là? Comment ça marche? Il y a des boutons partout. Et il y a une documentation qui faisait deux cartons pleins. Et là, j'ai eu un moment de découragement. Je dis non, ce n'est pas ce que je veux faire, je ne veux plus faire de banque, je ne veux plus faire d'informatique, etc. Et qu'est-ce que je veux faire? Toujours ce problème de qu'est-ce qu'on veut faire. Et j'ai réfléchi, et moi j'ai dit, mais j'aimerais bien aller dans la Lune. J'aimerais bien être astronaute, comme le petit garçon de tout à l'heure. Et là, je me suis dit, mais pour aller dans la Lune, ça doit être vachement compliqué les calculs. Alors si je ne sais pas faire les calculs de la banque, il n'y a aucune chance que j'aille dans la Lune. Aucune. Parce que dans la banque, il n'y a que des plus et des moins. Ce n'est pas compliqué, hein. Sauf qu'il faut bien sûr organiser. Et je suis rentré avec une patate pas possible, ça c'est aussi intéressant, en disant ben, je vais m'y mettre. Et j'ai sorti les bouquins, et vous lisez les bouquins, et petit à petit, ben, vous commencez à programmer un petit programme, deux petits programmes, trois petits programmes, et un petit à petit, j'ai informatisé la banque de développement. Une seule erreur, j'étais parti sur 10 mois de travail, j'y suis resté 4 ans. Intéressant, mais passionnant, un gros boulot. Mais qu'est-ce que j'ai découvert en plus? D'abord, j'ai découvert ma femme, mais j'ai surtout découvert des bons copains. J'ai fait la traversée du Sahara en 4L. J'ai acheté une 4L et j'ai fait Abidjan-Lille. C'est presque aussi important que mon boulot. Abidjan-Lille en 4L, c'est une aventure. Hein, le parcours magnifique. Abidjan, Bobo-Dioulasso, ceux qui connaissent un tout petit peu l'Afrique, puis le Niger, puis on remonte par Tamanrasset, El Goléa, Gardaïa. Et là, j'étais obligé de faire de la mécanique. Quand demain, vous partez tout seul avec votre voiture, il n'y a pas de garage dans le désert. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas possibilité d'appeler au secours. Et là, pendant plusieurs semaines, tous les samedis après-midi, avec la notice technique, j'ai appris la 4L. Aujourd'hui, je connais bien la 4L, ça ne me sert plus à rien. Mais pour le Sahara, c'était utile, très utile. Quand vous êtes tout seul devant vos responsabilités par rapport à votre voiture, une aventure tout à fait intéressante. L'expérience est très intéressante et un brevet de pilote. C'est là que j'ai passé mon brevet de pilote de ligne, pilote privé d'abord, puis pilote de ligne. Alors ensuite, j'ai rejoint Air France. Et là, une grande déception. Je suis pilote. Je rentre à Air France, je suis ingénieur. Et là, Air France me dit, vous êtes ingénieur ou pilote? Il faut choisir. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux, mais j'aimerais bien faire les deux. Non, c'est pilote ou ingénieur. Là, j'ai passé 15 jours très difficiles. Qu'est-ce que je vais faire? Ingénieur, pilote, pilote, ingénieur, pilote, ingénieur. Et j'ai choisi ingénieur. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je ne regrette pas. Mais je peux vous dire que pendant ces 15 jours-là, je n'étais pas bien. C'est deux orientations complètement différentes. Et alors, ce que j'ai appris, c'est que le premier boulot qu'il m'a donné, j'adore les avions. Eh bien, vous allez occuper du bâtiment. Bâtiment. Et donc, j'étais responsable des investissements immobiliers. La peinture, les locaux, les portes, les serrures. Et dans Air France, il y en a beaucoup. Je n'étais pas très content. Mais le point de passage obligé, on y va. Et j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. D'abord, 150 escales. J'ai visité plus de 30 escales, des problématiques passionnantes. Je ne peux pas vous faire un cours sur l'aéroport. Mais l'aéroport, imaginez les portes d'embarquement, comment on accède aux avions, comment on range le matériel, toutes ces problématiques. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et c'est un métier absolument passionnant, la logistique. Certains d'entre vous se passionneront demain pour les affaires générales. Eh bien, oui, c'est un métier et c'est un métier intéressant. Et donc, j'ai appris 50 escales et l'apprentissage du métier. Puis, j'étais patron de l'escale d'Orly. Alors, l'escale d'Orly, complètement différent. Et là, vous allez gérer des hommes et des femmes. Et ça, il n'y a pas de cours. Je ne sais pas si vous avez des cours de management, mais demain, vous allez vous retrouver devoir diriger une personne, deux personnes, trois personnes, peut-être même des équipes plus grosses. Moi, j'avais 250 personnes à l'escale d'Orly. Et le management, c'est quelque chose d'intéressant. Et les gens, ils ne travaillent pas pour vous faire plaisir. Ils ne travaillent pas avec des procédures. Ils travaillent si vous leur donnez un cap. Et ça, c'est aussi intéressant. Vous allez être leader demain et vous serez leader. Plusieurs d'entre vous auront des animations d'équipe. Eh bien, quand on anime une équipe, il faut y mettre de ses tripes. Il faut y croire. Quand on anime une équipe, c'est absolument passionnant et vous allez avoir des résultats que vous n'aurez dans aucun livre de mathématiques. D'accord ? Et ces résultats sont importants. Oui, il faut travailler ensemble et c'est ce que j'ai appris à l'escale d'Orly et gérer l'imprévu. Et j'ai appris autre chose. On m'a entraîné dans l'histoire incroyable du marathon, de courir 42 km sans s'arrêter. Je n'avais jamais couru avant. Aujourd'hui, j'en suis à mon 33e marathon. C'est une aventure tout à fait différente. Il ne faut pas besoin d'être ingénieur pour faire le marathon. Puis j'ai rejoint le bureau d'études, patron du bureau d'études. Et là, je retrouve mon métier d'ingénieur. Et le métier d'ingénieur, différentes facettes du bureau d'études. Quand on dit qu'on est ingénieur à Air France, on se dit, mais à part des pilotes et des hôtesses, il y a quoi à Air France? Mais il n'y a pas que des hôtesses à Air France. Il y a des pilotes. Mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs et d'ingénieurs qui bossent. Et ce boulot-là, c'est tous mes boulots que je vais vous expliquer. D'abord, chargé de cours, ce qui m'a permis de former des jeunes de l'université pour devenir pilote de ligne. Plusieurs de mes élèves sont joués pilotes chez Air France. Donc, c'est intéressant. Donc, on peut devenir pilote en passant par la fac. Les passerelles existent. Ensuite, j'ai appris le carburant. Plus de 2 milliards de francs dépendent de carburant. Le carburant est une chose extrêmement importante. Contrairement à la 4L dans le désert, où on peut s'arrêter où on veut, l'avion ne peut pas s'arrêter au milieu de l'Atlantique. Et demain, quand vous allez prendre l'avion, peut-être personne n'y pense, mais vous imaginez bien qu'on a dû faire les calculs, qu'on ne va pas tomber en panne d'essence en plein milieu du vol. Et ces calculs-là sont des calculs absolument sérieux, compliqués à faire, de calculer le carburant nécessaire pour arriver en destination en fonction de la météo et des aléas. Les redevances, on l'oublie, on paye des taxes. Les taxes, extrêmement compliquées. Chaque pays fait payer des taxes. Alors, il n'y a pas de guitoune en plein vol, sauf que vous recevez la facture. Dès que vous appelez un contrôle aérien, on reçoit une facture. Plus de 2 milliards de francs de dépenses de redevances tous les ans. Un contrôle de gestion extrêmement précis. Donc là, calcul de redevances pour calculer les distances, avec les loxodromies, les orthodromies, si on veut faire savant, qui sont les distances parcourues au-dessus des territoires. La cartographie. Cartographie, si vous vous intéressez aux cartes, aujourd'hui avec les GPS, c'est encore plus passionnant. La cartographie est un véritable métier. Comment on fait Paris-Tokyo dans le brouillard sans se tromper? Il faut bien qu'il y ait des ingénieurs qui se penchent dessus. Comment on calcule les routes? Comment on tient compte de la météo? Quand on fait des calculs de route entre Paris et New York, il y a une heure d'écart à l'aller ou au retour, en fonction des vents. L'avion fait 900 km/h. Vous avez des vents au niveau où on vole de 200 km/h. Si vous prenez les 200 km/h avec vous dans le dos, c'est comme si vous voliez à 1100 km/h. Si vous prenez le vent dans le nez, c'est comme si vous voliez 900 moins 200 à 700 km/h. Donc, si vous prenez les vents avec vous ou contre vous, ça change complètement la durée du vol. C'est-à-dire que la météo, dans l'aviation, n'est pas quelque chose pour faire plaisir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a encore eu un accident d'aviation dans le monde où on est arrivé en panne d'essence. Donc, la panne d'essence, c'est quelque chose qui fait peur. Le FMS, très compliqué, passionnant. Les ordinateurs, vos jeux vidéo, vous connaissez, mais on les retrouve à bord des avions aujourd'hui. Les calculateurs de bord, les Flight Management System, vous retrouverez des représentations de vol tout à fait étonnantes et vous avez aujourd'hui la possibilité de quasiment apprendre le Flight Simulator. J'ai emmené mon filleul en petit avion il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis dans l'avion et je lui ai donné le manche. Il y a peut-être des pilotes dans la salle. Si je vous donne le manche dans mon petit avion, l'avion va monter, descendre et n'importe comment. Ça, je suis garanti, c'est toujours très intéressant. Je vous laisse le manche et on regarde ce qui se passe. Et je mets mon petit filleul dans l'avion. 7 ans, il ne voit même pas, il voit même pas dehors. Je lui donne le manche, je lui dis, on va monter, descendre. Il tire l'avion, nickel. Alors je regarde, je lui dis, mais comment tu fais ça? Flight Simulator. D'accord. Aujourd'hui, les outils que vous avez sont des outils absolument étonnants de réalisme. Donc les Flight Simulator sont très très proches de la réalité avion. Et le crash d'Air France, j'ai vécu quelque chose d'intéressant. En 94, quand on était rentré à Air France, on était convaincu qu'on allait faire sa carrière chez Air France. Et ça, c'est aussi un autre message. Il y a très peu de chances, ici dans la salle, que vous fassiez votre carrière pendant tout le temps au même endroit. Ça, c'est quasiment certain, vous allez devoir changer d'entreprise. Quand je suis rentré à Air France, on était convaincu qu'on rentrait à la manufacture royale, qu'on allait faire 40 ans de carrière. Et c'est en 94, un beau matin, on dit, ben, on n'est pas sûr de faire la paye ce mois-ci. Et ça, ça a fait un choc incroyable. Ce mois-ci, pas sûr, mais le mois prochain, c'est sûr qu'on ne fera pas la paye. Et en 94, il a fallu reconstruire l'entreprise. Et là, il y a une mobilisation extraordinaire de l'ensemble des acteurs de l'aérien, enfin de que nous étions à Air France, pour dire, mais il faut sauver l'entreprise. Et on a mobilisé nos énergies sur une chose forte, c'est qu'on a appris à retravailler ensemble. Il y avait donc plein de corps de métier qui travaillaient, ce qu'on appelle dans des silos, enfin des organisations bien séparées. Et il y a tout un travail de re-engineering, c'est-à-dire le travail ensemble. Et ça, c'était une expérience extraordinaire. Avec une certitude aujourd'hui, c'est que tous les gens qui travaillent chez nous à Air France, il n'y a plus personne qui est garanti de travailler à vie. Donc ça, c'est un deuxième message. Hein, je vais couper mon téléphone. Ça, c'est pas bien. C'est pas prévu. Donc voilà, ça a plus sonné. Voilà. Hop, terminé. Alors, point suivant sur l'ingénieur. Là, j'ai eu la chance tout à fait étonnante de devenir le patron du Concorde. Alors, je vais vous raconter 2 minutes le patron du Concorde parce que ça, c'est un métier passionnant. Et du point de vue carrière, je pense que j'ai surpris un peu tout le monde. Quand on allait mal en 94, il a fallu reconstruire l'entreprise. Moi, j'étais dans le bureau technique. Je suis parti dans le commercial. J'étais patron de la ligne Paris-New York. Paris-New York, 8 vols à 10 vols quotidiens sur New York tous les jours. Il y a 500 vols qui traversent tout le matin l'Atlantique vers New York, les États-Unis, et le soir, 500 vols dans l'autre sens, toutes compagnies confondues, et Air France représente 10 vols. Donc, tous les jours, des vols qui vont sur New York. Et il y avait dans la caisse, il y avait le Concorde. Et le Concorde, personne ne voulait s'en occuper. Personne. C'était un vieil avion. Et j'ai réveillé l'avion. Et ça, c'est aussi intéressant. Vous pourrez demain, avec des pépites ignorées, transformer... Quelle que soit l'activité, on peut se passionner pour la cuisine et faire la meilleure cuisine du coin. Et le Concorde, j'ai fait un truc incroyable, j'ai redonné vie au Concorde. Le Concorde était un avion qui, à l'époque, était en difficulté. Le Concorde, on a regagné de l'argent avec le Concorde. J'ai regagné avec le Concorde, d'abord, j'ai relancé les grandes visites. Les grandes visites très techniques. On démonte l'avion, très technique, très ingénieur. On va jusqu'au boulon. On dédosse la totalité de l'avion pour le remettre en ligne. Et j'ai remis en avion en ligne le Fox Bravo, qui était le premier Concorde à revenir en exploitation. J'ai organisé le tour du monde de vitesse. J'ai organisé plusieurs tours du monde, plus de 20 tours du monde en Concorde. J'ai gagné le tour du monde de vitesse. Aujourd'hui, je suis tranquille, on ne pourra pas me battre. Il n'y a plus de Concorde. On les a mis au musée. Hein, donc peut-être vous aurez, vous, la chance de faire un tour du monde. J'ai organisé un autre projet que je parle 2 secondes, Pepsi. Comment je parle de Pepsi? C'était au moment d'Atlanta. Et je vois arriver un monsieur dans mon bureau qui me dit « Monsieur Debouc, je voudrais que vous peigniez le Concorde en bleu pour Pepsi. » Et là, j'ai dit quelque chose d'important. J'ai dit « Écoutez, je ne sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. » Et je voudrais te croire que peindre l'avion numéro 1, Air français, aux couleurs bleues, tout en bleu, d'accord, qu'on ne sait pas comment ça va fonctionner. L'avion n'est pas certifié peint en bleu. On ne peut pas passer le mur du son quand il est peint en bleu. Je ne savais pas quand j'ai signé. Fait que travailler. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le Concorde, c'est un avion complètement différent. Le carburant de l'avion du Concorde sert à refroidir l'air. Hein, donc alors que c'est l'inverse dans l'autre. Le Concorde se pilote non pas à la vitesse, mais à la température. Le point le plus chaud de l'avion est à 127 degrés centigrades. Quand on obtient 127 degrés, on arrête d'accélérer. Et on est a priori à Mach 2. Toute la peau de l'avion est globalement à 90 degrés centigrades. Donc, on refroidit l'air, alors que partout dans les autres avions, on réchauffe l'air. Donc, l'air de Concorde est obligé d'être refroidi, contrairement à l'air des avions subsoniques. Et en plus, j'ai eu le plaisir de faire un vol magnifique avec Claudia Schiffer et Cindy Crawford. Ça, c'était la surprise. Hein. Ça, ce n'était pas prévu au départ. Et Agassi. L'éclipse. L'éclipse, un autre projet magnifique, très ingénieur aussi, on m'a demandé de suivre l'éclipse. De suivre une éclipse en Concorde. Comment ça veut dire? Vous avez un avion qui fait 2000 km/h. Vous avez une ombre qui va se porter au-dessus de l'Atlantique. Vous partez avec l'avion au-dessus de l'Atlantique, l'éclipse de 99, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Il fallait absolument que je rentre dans l'avion. Et là, qu'est-ce qui ne change pas? L'éclipse, elle est à heure fixe. Si vous loupez le décollage, vous loupez le projet. Donc, toute l'organisation qu'il faut pour être certain de décoller à la minute près de Roissy, sans écart. Si vous avez un moindre problème technique, vous ne serez pas capable de suivre l'éclipse. Ensuite, le rayon du Concorde, quand on fait un demi-tour, c'est 200 km. 200 km quand on fait demi-tour. Demi-tour, on a parcouru 200 km, on part ici, après on sort 200 km plus loin au nord. Il faut faire les calculs à l'endroit où je vais tourner. Plus un piège, qui était au sud de l'Atlantique pour suivre l'éclipse? British Airways. Deux Concorde. La sécurité. Il ne faut pas que les deux Concorde viennent en collision. Les calculs reposent sur vous, ingénieur. Donc ça, c'est un boulot absolument passionnant. C'est très rigolo à vendre, compliqué à faire. Par contre, passionnant. Alors, mes vœux. Mes vœux de vivre vos passions. Ça, je suis convaincu, en tant qu'ingénieur, qu'on peut faire ces... Enfin, ingénieur ou pas forcément ingénieur. Les passions, vous pouvez les réaliser. Mettez de l'enthousiasme, d'accord? Un message intéressant, quand je me suis occupé de Concorde, on m'a dit, Franck, qu'est-ce que tu vas faire dans Concorde? Il n'y a rien à faire, c'est un vieil avion. 5 ans plus tard, tout le monde, les mêmes, Franck, quelle chance tu as eu d'avoir le Concorde à gérer? C'est intéressant, parce que vous l'avez rendu vivant. Vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit? Et on peut faire la même chose avec le 380 aujourd'hui, le 320, ou tout simplement, l'accord, hein, votre voiture hein, peut faire rêver. Soyez toujours curieux. Curieux, et ça, c'est une des valeurs de l'ingénieur. Je vais venir juste après. Ça, c'est important. Ça va écouter. Écoutez. Autant le bonjour. Bonjour, il n'y a pas grand monde qui sait des bonjours. Et l'écoute. L'écoute, c'est peut-être un des points de secret de l'ingénieur. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur les apps à écouter. Exploiter ce qu'il y a dans Internet. Colossal. Vous avez accès aujourd'hui, non seulement à toutes les conférences de l'Université de tous les savoirs sur Internet, mais la connaissance disponible gratuitement pour vous tous, absolument étonnante. Si vous êtes capable d'écouter ce que vous donne l'accès à l'information, vous êtes riche d'une information absolument colossale. Partagez vos découvertes. Là, je pense qu'on ne peut plus travailler tout seul. Personne ne pourra travailler tout seul. On ne peut pas faire un 380 tout seul. C'est absolument pas possible. On ne peut pas faire un projet tout seul. On est obligé de partager, de mettre sur la table nos découvertes et nos travaux. Alors, l'ambition. Alors, tout ça, c'est un petit peu dans le désordre, mais on va venir au petit film tout de suite. J'aimais beaucoup Saint-Exupéry. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent un petit peu Terre des Hommes, plus Terre des Hommes que Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est magnifique, mais Terre des Hommes, c'est extraordinaire. Saint-Exupéry va vivre une chose absolument incroyable, le stress. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez avoir peur de vos décisions. Saint-Exupéry voulait être pilote de ligne. Il va rentrer à l'aéropostale. Et à l'époque de l'aéropostale, on n'est pas pilote demain matin. La première chose qu'on doit faire quand on va être pilote à l'aéropostale, eh bien, on attend qu'un pilote ne rentre pas. Ce que je dis, c'est grave. Le début de l'aéropostale, il y a eu plus de 100 morts, plus de 100 pilotes qui ne sont pas rentrés. Tout ça pour que le courrier parte et arrive à l'heure. Saint-Exupéry voulait être garçon, moi je veux être pilote. Et il rentre à l'aéropostale, je vais être pilote. Et la première chose qu'on va lui faire faire, eh bien, il va attendre. Il va attendre qu'un pilote ne rentre pas. C'est une époque complètement révolue aujourd'hui. Il va être donc embauché, il va d'abord être dans les hangars. Il va nettoyer les moteurs, il va nettoyer les hangars. Il va faire ça pendant plus de 2 ans. Plus de 2 ans, il va attendre son tour. Et un beau jour, Didier Dorin va l'appeler. Il va dire, demain, c'est toi qui fais le courrier Toulouse-Casablanca. Il est tout content. Ça y est, demain, je suis pilote. Je veux faire pilote. Donc, il est tout content et à la fois, il est mort de trouille. Parce que pourquoi il est pilote? Un pilote n'est pas rentré. Donc, il va aller voir son copain Guillaumet. Copain Guillaumet qui est un pilote extraordinaire. Il va lui dire, demain, je suis pilote. Et son copain Guillaumet découvre, et ça on sait tous le faire, découvre que Saint-Exupéry ne va pas bien. Il va lui sortir une bouteille de Porto. Hein, il va lui sortir une bouteille de Porto pour aujourd'hui c'est interdit. Hein. Et il va faire quelque chose, il va lui discuter avec lui. Il va lui dire une chose, cette phrase-là qui est magnifique. Il va lui dire, écoute, je crois comprendre. Il va lui dire, les orages, la brume, la neige, quelquefois tout ça, ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi. Et dis-toi simplement ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Et ça, c'est une phrase importante, on n'est pas plus con que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dans n'importe quelle aventure. Mais pensez-y demain, si quelqu'un a réussi, je peux peut-être aussi, mon copain a su faire, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et ça, c'est une phrase forte hein, de Guillaumet, ce qui a permis à Saint-Exupéry de partir le lendemain un peu rasséréné et sûrement la peur au ventre. Ah non, on peut avoir peur. Alors je vous propose, avant de venir ça, je vous fais juste un tout petit film, et on va revenir sur le parcours, comment on devient ingénieur, sur un tout petit film, j'espère qu'il va marcher du premier coup. Alors on va le lancer. Alors, n'ayez pas peur s'il est en anglais. La lumière.
Thing I'll ever feel. levitating nightmare. 60 knots. The noise takes over. 100 knots. Does it? Heart starts to pound a bit. V1. Rotate. V2. Positive climb.
Inspiration will stay with us. We take our standards of service still higher and higher.
Alors, je vais vous montrer la suite. Je vais vous dire que cet avion, pourquoi j'ai vendu une boîte présente un vieil avion et en plus de chez British Airways. D'abord, c'est un travail qui a été fait en commun. Cet avion n'aurait jamais pu faire par les Français tout seul. C'était fabriqué par les Français et les Anglais. Il a fallu travailler ensemble. Ça, c'est aussi un travail important. La 380, c'est un travail entre les Français, les Allemands, les Espagnols et les Anglais. Le travail aujourd'hui, c'est quelque chose de partagé. Ensuite, quand j'étais à votre place, j'ai jamais cru qu'un jour je serais patron du Concorde. C'est intéressant. Or, c'est quelque part quelque chose d'accès possible. Quand vous occupez du Concorde, quelle ingénierie! Regardez le travail qu'il y a eu au début. Quand il a fait le simulateur, on parlait des jeux vidéo, quand Turca a décollé la première fois le Concorde, la toute première fois, imaginez le stress. Un avion supersonique, d'une taille énorme, énorme, il n'y a aucun avion de chasse qui ait cette taille-là, qui va décoller la première fois. Eh bien, quand Turca va descendre de l'avion, il s'est comporté comme le simulateur. On a fait le simulateur, on a imaginé par le calcul, le simulateur que l'avion n'avait jamais volé. Intéressant. Donc les équations vous ont permis de rassurer. Donc Turca n'a pas été surpris de la réaction de l'avion. Ensuite, beaucoup d'ingénieurs, vous avez vu les tables à calcul. On réfléchit, on calcule, on revérifie. Tous les calculs ont été faits trois fois. Aujourd'hui, un avion qui est le premier au monde, les difficultés sont nombreuses, il y en a de nombreuses, je vous en prends juste une seule. Une seule, mais je vais essayer de me faire comprendre. Le moteur ? Ah oui, pardon. J'ai perdu ma... Hop, ça va mieux ?
Merci.
Parfait. Le Concorde, le moteur.
Je vais parler à des techniciens. Vous êtes des techniciens. Le moteur de Concorde est un moteur subsonique. Je m'explique. L'air qui doit rentrer dans le Concorde doit rentrer sous la vitesse du son. Le Concorde va à Mach 2. L'air doit être rentré à moins de Mach 1. Comment vous faites ? Le moteur n'est pas un moteur supersonique. L'avion ne sait pas digérer. Si vous voulez rentrer de l'air à Mach 2, il va s'étouffer. Les entrées d'air, le Concorde, les entrées d'air, si vous regardez un jour au musée, vous allez voir que les entrées d'air sont carrées. On va avoir tout un système d'asservissement pour fermer l'entrée d'air. Et va rentrer un tout petit filet d'air pour que derrière, l'air soit peu d'air qui va être donc détendu et rentrer en vitesse subsonique. Un énorme travail d'ingénieur. Les calculateurs à bord calculent sans arrêt à quel niveau on doit descendre l'air. Un point de faiblesse extraordinaire et de complications ingénieurs. Voilà, le point le plus chaud, 127 degrés. L'avion se rallonge de 14 cm. Tous les câbles électriques à l'intérieur, si vous ne faites pas attention, la première fois qu'il atteint Mach 2, tout est cassé. L'avion va s'allonger de 14 cm. Il faut penser à toutes les boucles, comment on va faire que l'avion va résister. Cet avion est un avion magnifique, en travaillant dans toutes les langues, et est aujourd'hui inégalé, hein, fait rêver. Si vous voulez obtenir des sourires, vous avez vu les sourires, hein, c'est intéressant, le film on montre des sourires. Mais les sourires, c'est que derrière, il y a des femmes et des hommes qui ont fait des calculs. Il y a des femmes et des hommes qui ont bossé. Et ça, c'est intéressant, si votre produit, enfin, c'est la même chose sur les grands restaurants. Hein. Donc, le plaisir qu'on peut avoir n'est pas lié à Concorde, mais derrière un produit haute technologie, le TGV, grand produit de technologie, la 380, magnifique. Si vous prenez les bateaux qui sortent des chantiers de l'Atlantique, extraordinaire. Les voitures, on travaille avec l'ingénieur de chez Renault et des collègues à moi sont aujourd'hui ingénieurs de recherche chez Renault ou chez Citroën, font les mêmes travaux de recherche et de développement. Alors, je vais venir maintenant sur la... Puis, on va venir passer aux questions, puisqu'on va avoir atteint les 50 minutes. Alors, comment... Je vais peut-être le faire sans slide. Comment on peut devenir ingénieur ? Alors, le métier d'ingénieur, quand je regarde autour de mes copains, les ingénieurs, il y a toutes sortes. J'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé à l'escale, et aujourd'hui, mon dernier métier, je suis Air France Consulting. Et je travaille où, essentiellement, aujourd'hui ? Je travaille dans l'hôpital. Je transfère le sérieux de l'analytique... du cockpit au bloc opératoire. Donc le travail que je fais aujourd'hui à Bordeaux, je travaille au CHU Saint-André, je travaille à l'Institut Bergonnier et je travaille à Bordeaux-Nord-Aquitaine avec des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui disent « mais comment on fait dans l'aérien pour obtenir quasiment le zéro faute ?» Je rappelle que dans l'aérien, on a des taux de 10-9 en termes d'accidents. Quand vous montez un moteur sur un avion, il va tourner 10 000 heures sans arrêt. 10 000 heures avant d'avoir le premier démontage programmé sur un moteur d'avion. 10 000 heures sans souci. Imaginez les calculs, les sérieux qu'il y a derrière les essais. Voilà, alors j'en ai fini, il est 15 heures. J'ai d'autres petites slides à vous présenter peut-être, Julien peut-être, mais je pense que vous avez des questions. Alors, on y va. Oui ?